C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Caral est la plus vieille ville d'Amérique. Datant de 2600 avant Jésus-Christ, elle est située au Pérou à 200 km de la capitale Lima. Alors autre fait très surprenant, elle abrite des pyramides de la même période que celle d'Égypte. Les archéologues ont pris conscience de la présence de sites anciens dans cette région d'Amérique, au moins depuis les années 1940, mais ce n'est que dans les années 2000 que ces ruines ont été découvertes et excavées. Un petit peu d'histoire ne fait jamais de mal. Alors après Carcassonne, voici Caral, le nouveau jeu de Klaus-Jürgen Wrede, un jeu localisé en France par Blue Cocker, à qui l'on doit la série Welcome. Votre but ici, devenir la famille la plus célèbre de Caral. Pour ce faire, il faudra construire des pyramides et faire des sacrifices pour faire plaisir aux dieux. Au niveau de la mise en place, vous allez poser le plateau de la cité de Caral. La piste se présente comme une spirale. Vous partez du haut pour arriver au milieu, là où se trouve la grande pyramide qui au début n'a qu'un étage. Les caralis, les cartes ressources, les alpagas et les pierres sont posées tout autour du plateau. Et enfin, chaque joueur va récupérer des cartes ressources, une ou deux pierres que vous mettez dans la charrette et un alpaga que vous placez devant. Logique, hein, il tire la charrette. Voilà, on est prêt à jouer à Caral. Mais alors, comment on joue? Eh bien, on est d'accord, pour construire des pyramides, il faut un architecte. Alors la première famille, en gros le premier joueur qui va jouer pour cette année, va lancer le dé et faire avancer l'architecte sur la piste. Quand revient son tour, elle le lancera de nouveau pour qu'il avance. Et attention, vous ne pouvez jamais faire une action qui se trouve derrière l'architecte. Deux choses à faire dans Caral, vous vous déplacez devant ou sur la même case que l'architecte. Vous pouvez vous déplacer d'autant de cases qu'indique votre alpaga. Sur votre plateau personnel au début, vous pourrez avancer de 1 à 4 cases, mais tout au long de la partie, vous pourrez récupérer d'autres alpagas pour avancer de plus de cases. À tout moment, pour avancer d'une case supplémentaire, on peut défausser une carte ressource. Donc première chose, on déplace notre meeple famille, puis on va faire l'action de la case où l'on s'arrête. Plusieurs sont possibles. Si on s'arrête sur une case village, on peut prendre l'un de nos meeple carali que l'on pose dans une carrière qui nous permettra plus tard de récupérer des pierres. Mais on peut le mettre aussi devant un emplacement de pyramide pour le réserver, qui nous permettra par la suite de construire nos pyramides, ou encore tout en haut de la pyramide de 5 étages en tant que prêtre. Alors si on s'arrête sur une case carrière, vous récupérez autant de pierres que vous avez de carali dans la carrière adjacente. Vous avez deux carali, vous prenez deux pierres que vous posez dans la charrette de votre plateau personnel. Attention, il n'y a que 4 places disponibles. Si votre meeple famille se déplace sur une case place du culte, vous allez piocher deux cartes ressources qui vous serviront pour rejouer si vous défaussez deux poissons, pour construire plus si vous défaussez deux cartes argile ou deux cartes pierre, et pour avancer et faire une autre action si vous défaussez deux cartes alpaga. Ces cartes sont aussi importantes lors de la cérémonie annuelle, on va y revenir. Autre case possible, le marché des animaux, qui vous permet de prendre un alpaga de plus. Et enfin, dernière chose, vous vous arrêtez sur l'une de vos cases en construction. Vous pouvez donc construire des étages de votre pyramide entre 3 et 5. Attention, vous ne pourrez poser des prêtres qui vous rapportent de la renommée qu'en haut des pyramides qui ont 5 étages, mais des fois une petite pyramide de 3, c'est plutôt pas mal. Pour construire un étage, vous devez donner une pierre. Alors si par hasard, vous avez d'autres pierres et deux cartes ressources identiques, argile ou pierre, vous pouvez les dépenser pour construire un ou plusieurs étages supplémentaires. Faudra toujours donner à une pierre en plus des cartes ressources. Alors quand l'une de vos pyramides est entièrement construite, vous pouvez gagner des points de renommée. Et selon le nombre de pyramides construites, vous allez avancer sur la construction de la pyramide centrale en ajoutant un étage. Quand le cinquième est posé, on finit l'année et la partie s'arrête. Mais avant toute chose, voyons comment se termine une année. Le premier joueur qui arrive à la fin du parcours arrive à la pyramide centrale. Il va participer comme toutes les autres familles à la grande cérémonie. Il va falloir faire des sacrifices. Pour faire des sacrifices, vous devez défausser des cartes ressources identiques, soit des pierres, de l'argile, des poissons ou des alpagas. Mais attention, si moi je défausse des poissons, mon adversaire ne peut pas défausser des poissons. Il devra choisir une autre ressource car les dieux en ont déjà reçu. Si vous faites des sacrifices, les dieux vous remercieront en vous offrant un point de renommée. Si vous êtes le joueur à en faire le plus, vous remportez des points 3 à 7 selon le nombre d'étages de la pyramide centrale construite. Vous pouvez décider de ne pas faire de sacrifice, car les ressources c'est important dans le jeu. Mais dans ce cas, vous perdez un point de renommée car les dieux ne sont pas contents du tout. Le premier joueur à avoir fait le plus de sacrifices récupère le dé architecte pour l'année suivante. Les joueurs qui ont des prêtres sur leur pyramide gagnent un point de renommée par prêtre. Et selon le nombre de pyramides commencées, on va recevoir aussi des cartes ressources et c'est reparti pour une nouvelle année. Une fois la pyramide centrale construite, on va compter les points. 2 points de renommée pour chacun des prêtres placés, pour chaque pyramide complétée, 5 points de renommée pour chaque pyramide de niveau 3 et 10 points de renommée pour chaque pyramide de niveau 5. Pour les pyramides incomplètes, chaque famille reçoit 1 point de renommée par niveau construit. Alors faut-il garder les cartes pour la cérémonie annuelle ou les jouer pour construire, rejouer et avancer plus vite? Beaucoup de dilemmes vont se poser dans le jeu. Dans Caral, il y a beaucoup d'interactions car si je vois que je suis mal barré dans un tour, j'ai peut-être intérêt à arriver le plus vite pour stopper les autres joueurs dans leur construction. construction. Ou encore, si je suis premier joueur, si j'avance l'architecte plus rapidement, je peux bloquer toutes les actions derrière. Ah, tu voulais construire ? Eh bien, tu ne peux plus. C'est pas très gentil, mais c'est comme ça. Caral a une forte rejouabilité, d'autant plus que de nombreux modules, émissaires, anaconda, tuiles progrès et j'en passe, ajoutent de nouvelles raids que je vous laisserai découvrir. D'ailleurs, un conseil, hein, ajoutez-les progressivement. Un jeu initié qui, en ajoutant certaines variantes, eh bien, s'approche d'un jeu expert qui plaira donc à de nombreux joueurs, expérimentés ou non. Caral, ça sort ce 27 janvier et édité par Blue Cocker. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Morgan du Carnet des Geekeries pour Week-end Ludique. Week-end Ludique avec aujourd'hui, eh bien, Klaus-Jürgen Wrede, hein, donc l'auteur de Carcassonne. Forcément, Morgan va nous en parler.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le vendredi, désormais, c'est Week-end Ludique. On joue avec un auteur, avec un éditeur et surtout, on retrouve Morgan. Salut Morgan.
Salut.
Alors aujourd'hui, on va parler de quel auteur ?
De Klaus-Jürgen Wrede.
Et alors, c'est un auteur qui est connu, ça ?
Alors écoute, j'en ai vaguement entendu parler. C'est l'auteur du célèbre Carcassonne, du coup le jeu qu'on présente plus vraiment. C'est le jeu aussi qui a fait populariser les Meeples, ces fameux petits bonhommes qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, parce que oui, le nom il vient de ce jeu et de l'éditeur Ansim Gluck, du coup l'éditeur original de Carcassonne. Carcassonne, du coup, c'est un jeu de tuiles dont le plateau va se construire au fur et à mesure grâce aux constructions de villes, de routes, de champs et d'abbayes. On va donc créer la célèbre cité de Carcassonne. Pour jouer, il n'y a rien de bien compliqué. Lors du début de la partie, on va avoir une seule tuile qui sera placée au centre de la table. Mmh. Et en fait, à son tour, le joueur actif va piocher une tuile parmi celles qui sont cachées, la révéler et la poser adjacente à la tuile de départ. Mais forcément, on ne pourra pas la poser n'importe comment, puisqu'il faudra qu'elle soit en continuité avec la tuile adjacente à laquelle on la pose. On ne pourra pas, par exemple, poser une demi-route face à un champ directement. C'est pas
d'accord,
possible.
Ouais.
Quand même les constructions en règle. Une fois cette tuile posée, le joueur va pouvoir décider de poser l'un de ses meeples dessus pour essayer de l'acquérir, soit sur une route en construction, soit dans un pré ou dans une cité, mais avec deux conditions principales. Il faut qu'il n'y ait pas de meeple adverse dans la même zone et que le meeple qu'on va poser soit bien sur la tuile qu'on vient de poser à l'instant. Si la tuile elle permet de fermer une route ou une cité, le joueur avec son meeple dessus va marquer des points immédiatement et récupérer les pions qu'il avait posés. Pour les routes, il va marquer un point par tuile qui contient un morceau de route. Et pour les villes, ça sera le même principe, mais avec deux points par tuile qui la composent et deux points supplémentaires pour chaque tuile qui contient un petit blason. Les abbayes, quant à elles, elles vont rapporter 9 points si elles sont entièrement entourées et si un meeple est dessus. Il ne sera pas obligatoire en fait de poser un meeple ni de fermer une route ou une cité. C'est même là tout l'essence du jeu, puisqu'en fait, on va chercher à agrandir toujours plus nos constructions pour scorer encore plus. Mais en restant prudent, parce qu'en fait, on peut se faire piquer aussi nos constructions et voir les autres joueurs qui vont commencer à venir dans nos cités, enfin dans nos villes. Donc voilà, il peut arriver du coup qu'il y ait plusieurs joueurs sur une même zone qui auraient pu être reliés par une autre tuile après. Et dans ces cas-là, c'est égalité, les joueurs concernés vont remporter chacun les points lorsque la ville ou la route sera fermée. La partie, elle va continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les tuiles aient été posées. Du coup, on va vraiment avoir un plateau qui va s'agrandir constamment jusqu'à la fin de la partie. À la fin, on aura quand même des points pour les constructions inachevées qui rapporteront quelques points. Mais on comptera aussi les prés. On a des meeples qui auront été posés dans les prés tout au long de la partie. Et cela, ça va être 3 points par ville fermée qui touchera le pré, mais uniquement pour le joueur majoritaire. Donc s'il y a un joueur qui est minoritaire dedans, il n'aura rien du tout. Les règles de base, elles sont vraiment très simples et très accessibles, mais c'est vrai qu'il y a plein de modules différents qui ont été créés, qu'on peut rajouter au fil des parties. Il y en a certaines qui deviennent indispensables. On a le bâtisseur, par exemple, qui permettra de jouer une seconde tuile si vous agrandissez une zone où il est présent. Les marchandises aussi qui vous feront marquer des points si vous êtes majoritaire et qui seront à récupérer pendant les fermetures de ville. Il y a une dizaine d'extensions qui sont sorties sans compter les différents petits modules. C'est vraiment un gros carton. Mais c'est vrai qu'il y en a deux. Il y a eu la big box et du coup, moi, il y en a deux qui sont vraiment indispensables pour moi. C'est auberge et cathédrale qui rajoutent les auberges et les cathédrales dans les villes. Et il y a aussi un meeple plus gros dedans qui permet de séparer aussi les égalités parfois. C'est quand même bien utile. Et celle de marchand et bâtisseur dont j'ai parlé juste avant. Mais en fait, elle permet de rajouter de l'interaction avec les marchandises, donc celle-là, je l'aime beaucoup. Après, t'en as d'autres qui vont rajouter du stop ou encore, qui vont rajouter des acrobates même, faire entrer un dragon qui viendra éliminer des partisans, capturer les autres meeples. Enfin, il y a vraiment de tout dans cette gamme de jeux.
Et puis, il y a d'autres Carcassonne aussi que le classique.
Donc il y a eu la Big Box, là, comme t'en as parlé, qui propose le jeu de base avec plusieurs extensions à l'intérieur. Il y a eu l'édition des 20 ans aussi, en 2021, 20 ans après l'obtention du Spiel des Jahres. Et il y a eu plein d'autres dérivés. Il y a eu un petit jeu de dés qui est sorti, il y a eu une version plus jeune avec mon premier Carcassonne,
une version Safari.
Et puis là, dernièrement, la dernière qui est sortie, c'est Ombre et Brouillard, qui propose du coup un jeu coopératif complètement indépendant où il va falloir s'associer pour apaiser les esprits et éviter la propagation du brouillard, en sachant que même si c'est un jeu indépendant, on peut récupérer les tuiles pour les rajouter au jeu de base. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui a un énorme succès impressionnant et qui est un peu une référence dans le ludique, je pense.
C'est le classique, hein, c'est le classique c'est au même titre que Seven Wonders ou que Catan, quoi. Hein.
Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est vraiment le jeu familial par excellence, donc voilà, c'est un gros carton, ça a été vendu à des millions d'exemplaires. Et c'est vraiment impressionnant tous les dérivés qu'il y a et qu'il y en ait encore aujourd'hui, quoi.
Un jeu donc de Klaus Work je te laisse dire.
Klaus Jürgen Wrede.
Voilà, Klaus Jürgen Wrede. Donc c'est un auteur donc qui a sorti Carcassonne, mais pas que, il a sorti d'autres titres, parce que là je viens de présenter son nouveau jeu qui s'appelle Caral. D'ailleurs Caral c'est aussi sur une cité, donc il aime bien les cités, hein. C'est en 2016 qu'il a été visiter les ruines de Caral et ça l'a complètement émerveillé. Par conséquent, quand il a voulu faire un magnifique jeu évoquant cet endroit ancien et mystérieux, et c'est issu donc d'un Kickstarter, et Blue Cocker donc le sort aujourd'hui en France.
C'est ça, et du coup il a aussi fait un Roll and Write, il a fait Hop, c'est plié. C'est un petit Roll and Write assez particulier, je ne sais pas si tu l'as essayé.
Ah non, pas du tout.
En fait, il va falloir cocher des cases sur sa feuille pour pouvoir plier les coins et récupérer des bonus.
Ah, Hop, c'est plié, j'avais pas compris. C'est lui qui est sorti dernièrement, effectivement.
Voilà, donc c'est aussi lui, alors c'est du coup Autora, du coup, parce qu'ils sont deux dessus. Mais voilà, il y a eu celui-là, et puis il y a eu aussi Fire and Stone, où on part guider des tribus à travers différents âges pour découvrir des territoires et leur faire construire des villages. Donc il est très dans la construction quand même, dans tous ses jeux, mais voilà, c'est vrai que son plus gros succès, ça reste Carcassonne.
Et on va dire qu'il en sort pas beaucoup de jeux, mais je pense que ça lui suffit avec Carcassonne.
Je pense, ouais.
Maintenant, Morgane, tu sais qu'il y a eu les nominations de l'Asdor, forcément. Ah, et ben, je vais te demander ton pronostic. Moi, j'ai fait mon pronostic, donc j'attends le tien maintenant de pronostic. Alors, on va commencer par les enfants.
Alors, les enfants, il y a mon chouchou de l'année dedans, donc je suis trop contente. Il y a la planche des pirates, donc forcément, je le mets lui en gagnant.
Moi aussi, j'ai voté pour la planche des pirates.
Mais c'est une belle sélection. Ouais. La sélection enfants, c'est vraiment des bons jeux. Donc,
d'ailleurs, est-ce que tu as fait des petits pronostics? Parce que moi, tu vois, au niveau des enfants, j'ai 3 sur 3.
Moi, j'avais mis la planche des pirates, j'avais peut-être mis Clé Magique, je crois.
D'accord.
Et la Colline au feu follet, c'était quasiment sûr, de toute façon.
Oui,
c'était pas une grosse surprise. Ouais.
Allez, on va continuer avec la catégorie initié. Donc, il y a Challengers, Turing Machine et Alice is Missing.
Et pour moi, c'est Turing Machine.
Pour toi, c'est Turing Machine. Ok. Alors, moi, j'ai voté Challengers parce que je pense que Turing Machine et Alice is Missing, on est vraiment sur deux univers différents de la déduction. Et le jeu de rôle, et qu'ils ont voulu les mettre aussi en avant dans les initiés, mais je pense qu'ils vont... On verra bien, mais Turing Machine, oui, forcément, Turing Machine, si t'as l'esprit un petit peu mathématique, c'est super, quoi.
C'est ça.
On en parlera bientôt, hein, puisqu'il y aura une spéciale avec Fabien Gridel. Il y a aussi donc, la catégorie expert, donc là, on est sur du gros jeu, avec Ark Nova, mais aussi Carnegie et Fédération.
Ouais, et là,
bah,
je choisis Ark Nova.
Oui, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Hein. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils en ont mis d'autres autour, hein, mais bon.
Ouais, bon, les trois, c'est une très belle sélection. Hein. C'est vrai que les trois sont...
Trois gros jeux.
Enfin, ouais. C'était vraiment ceux qui étaient attendus, les trois, pour cette sélection, et c'est une belle sélection expert.
Alors, je ne vais pas redire que je n'ai pas joué à Ark Nova, parce que je vais encore me prendre plein de messages. Ah, comment ça, t'as pas fait Ark Nova? Bref, d'autres, du coup, voilà, je n'ai pas dit. Et on va finir par le jeu de l'année, donc catégorie jeu de l'année, avec Acropolis, avec, je sais plus, j'ai perdu...
District Noir et
That's Not At. Alors,
alors là, du coup, j'aimerais beaucoup voir District Noir gagner, mais je pense que ça va être Acropolis.
Ouais, je pense que c'est Acropolis qui va gagner, mais c'est bien en tout cas que District Noir ait été nommé, parce que c'est un jeu de joueurs, quoi.
Oui, c'est ça, et ça fait plaisir, puis c'est leur premier jeu surtout, quoi.
C'est ça.
Et c'est vraiment exceptionnel qu'un an après, ils soient nommés à l'Asdor. Enfin,
et puis je crois
que
l'histoire de l'Asdor, c'est jamais arrivé qu'un jeu à deux soit nommé. Donc,
Je crois pas non plus, donc ouais, c'est vrai que ça fait super plaisir. Moi, j'aimerais bien le voir gagner. Après, voilà, je pense que Acropolis est plus familial, plus en train d'être gagnant de l'Asdor. Oui, mais les deux sont très,
aussi
très
qu'Acropolis
bons, quoi,
donc... va avoir. Mais on verra ça. Et That Not Hat, je pense que tu n'y as pas joué encore.
J'étais inconnu au bataillon, ouais. Je l'ai découvert en découvrant la sélection. Donc je vais découvrir ça. Après, j'ai juste vu que c'était plus un jeu d'ambiance.
Oui,
de ce que j'ai
ouais,
compris.
Ouais. Mais on va en parler donc, bientôt aussi, juste avant Cannes. Voilà. Eh ben merci. Alors, comme elle nous expliquait, hein, Marie, le jeu aurait dû sortir début janvier, mais il a été décalé parce qu'il y avait trop de sorties. Mais voilà, donc en tout cas, si le jury l'a choisi, eh bien, ça doit être bien. Il faut savoir que il y a toujours une petite surprise dans l'Asgore.
Oui.
L'année dernière, c'était Pimpon. Personne ne connaissait Pimpon.
C'est,
hein, voilà.
C'est totalement ça. Il y a un jeu, on ne sait pas de qui sort.
C'est ça. Voilà.
Mais bon, c'est à découvrir parce que ouais, s'il est sélectionné, c'est qu'il y a une raison. Donc,
et voilà, exactement. Merci beaucoup, Morgane.
Avec plaisir.
Et puis, on se retrouve vendredi prochain.
Ça marche, bon week-end.
Salut, bon week-end.